qu'ils arrivent à faire, ben, c'est fermer leur usine. Et c'est merveilleux. Comme ça, encore plus de chômeurs. Bravo la CGT. Continuez, faites fermer toutes les usines de France. Ce sera merveilleux. Il n'y aura plus de travail. Qu'est-ce qu'on va être bien quand on entend parler Bernard Thibault. Et toi, Mermet, avec ton truc, ton rire narquois.
Oui, salut Daniel, salut à toute l'équipe, là, c'est Jean-Pierre de Foissy dans le Cher, là. Ben, je rentre de manif à Vierzon, hein. Vierzon, la ville rouge bien connue, hein, où il y a vraiment des gens qui se bougent le cul. Bon, on était quelques centaines ce matin, et puis là, je rentre, là, puis j'écoute votre émission sur Peugeot, et je me dis, il y a quand même un souci, parce que aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes vont être dans la rue, je sais encore pas combien, parce que le défilé de Paris n'a pas eu lieu, et je me dis que, voilà, quelques jours, on entend que quelques pigeons, puisqu'ils se font appeler comme ça, font plier le gouvernement. Et là, je me dis quand même que la force, elle est de notre côté, parce que nous, on n'est pas quelques personnes, on est des milliers de personnes à pas être d'accord non plus avec la politique qui nous est proposée, même si on y a cru un petit peu au départ, parce que bon, on était sans trop d'illusions, mon ouvrier, mais on y croyait quand même un petit peu. Et je me dis que si quelques personnes ont réussi à faire plier le gouvernement, mais nous, alors, les copains de chez Peugeot, les copains de partout en France où ça va mal, il faut peut-être qu'on se mobilise et qu'on se réunisse et qu'on en discute, je sais pas où, hein, peut-être à France Inter, ça, ça serait une idée, ça serait une idée à France Inter, c'est le service public, si je me rappelle bien. Je sais pas, il faudrait faire quelque chose, parce que là, ça peut pas durer comme ça. On a bouffé du Sarko, maintenant on bouffe du Hollande, et pour l'instant, la soupe, elle a à peu près le même goût. Alors moi, je suis syndicaliste CGT, et je suis un peu tiré de tout ça, et je me dis que c'est pas possible. J'ai 54 balais, ça fait 37 ans que je bosse. Je vais quand même pas crever en ayant bouffé que de la merde, quoi. Alors, je sais pas, les copains, ce que vous en pensez, dites-moi, voilà. Il faut qu'on soit dans l'action, il faut qu'on bouge, mais il faut pas simplement se contenter d'être dans la rue et de faire qu'un petit tour. Et je pense qu'il faut qu'on bloque, et je pense qu'il faut qu'on y reste dans la rue, parce que, aller en manif, et puis se compter après. Quand on est beaucoup, on est content. Quand on est moins, on fait la gueule, mais je pense qu'aujourd'hui, ça suffit pas, parce que c'est une véritable guerre qu'on mène au monde ouvrier. Et je pense qu'il va falloir d'autres façons de lutter. Allez, malgré tout, on lâche rien, et salut à tous, et ciao.
Quelqu'un leur a dit au gouvernement qu'il y avait 80 000 pigeons qui sont descendus dans la rue pour dire non au nouveau traité européen. C'est drôle quand même. On dirait que le gouvernement est moins sensible aux pigeons qui manifestent qu'aux pigeons sponsorisés par le MEDEF. Alors à tous ceux qui n'ont pas envie de se faire déplumer par l'austérité pour payer les cadeaux fiscaux des copains de Madame Parizeau, rendez-vous ce mercredi devant le Sénat avec casseroles, sifflets et tout ce qu'il faut pour éveiller les parlementaires. Venez nombreux.
Bonjour Daniel, c'est Yuki Takarata. J'ai participé l'année dernière à ton émission sur Fukushima et Hiroshima. Aujourd'hui, je t'appelle pour annoncer le rassemblement à la Bastille, samedi 13 octobre à 15h, en soutien à la majorité de la population japonaise qui réclame l'arrêt de toutes les centrales nucléaires au Japon. À Fukushima, l'accident est toujours en cours et les habitants redoutent des conséquences sanitaires graves, notamment pour les enfants. Or, en juillet dernier, le gouvernement japonais a forcé le redémarrage des deux réacteurs de la centrale d'Oi, malgré l'opposition de la population, et alors que le Japon n'avait plus aucun recours à l'énergie nucléaire depuis plus de 50 jours. La mobilisation de la société civile a pris de l'ampleur. Il y a de plus en plus de Japonais qui descendent dans la rue, et le rassemblement se répète toutes les semaines et partout dans le pays. Alors on va essayer de faire comme eux, mais à notre petite échelle. Samedi prochain, ce rassemblement intitulé « Prenons la Bastille d'Iode, la révolution énergétique, c'est maintenant », c'est le premier des rassemblements mensuels co-organisés par Sortie Nucléaire Paris et le réseau international de ressortissants japonais Yosomono Net qu'on vient de créer. Nous voudrions réunir des citoyens de toute origine. En plus des témoignages des Japonais et des interventions, il y aura des animations originales, comme la danse traditionnelle de Fukushima, entre autres. Venez nous rejoindre à la place de la Bastille, samedi 13 octobre à Paris. Ce jour-là aura lieu, en plus d'autres actions antinucléaires dans plusieurs endroits en France, un grand rassemblement à Tokyo. Merci.
Bonjour, je suis Brigitte Petit, présidente de l'association AC Samsonite, licenciée depuis 6 ans, en lutte contre les actionnaires qui nous ont licenciés pour faire encore plus de bénéfices, dont M. Mitronnet, fondateur de Ben Capital, le fonds d'investissement, responsable de nos licenciements. Nous partons ce vendredi aux États-Unis, donc vendredi 12, pour manifester avec des Américains également victimes du même fonds d'investissement et de Mitronnet. Nous partons également déposer notre plainte contre le fonds d'investissement Ben Capital pour partir. partir, il nous manque encore 15 000 euros. Demandons votre aide pour nous contacter, voire adresse e-mail. bernard.daubenfil@orange.fr. Merci beaucoup de vos dons qui seront les bienvenus.
Voilà une histoire formidable que vous venez d'entendre de la bouche de Brigitte. C'est ses ouvriers, ses ouvrières, ses ex-salariés de l'usine Samsonite de Hénin-Beaumont. Vous vous souvenez, on les avait rencontrés au printemps dernier. L'usine Samsonite de Hénin-Beaumont avait été vendue par Bain Capital en 2005 et mise en liquidation en 2007, et voilà que ces ouvriers et ouvrières qui sont fait virer à l'époque, qui sont des gens extrêmement têtus, qui ne lâchent rien. Alors là, l'expression ne rien lâcher, c'est vraiment, ça correspond tout à fait à la lutte de ces gens-là. Et voilà qui pas que ce vendredi, ils partent aux États-Unis. Pour quoi faire? Eh bien, pour soutenir des licenciés américains victimes de ce même fonds d'investissement Bain Capital. Pourquoi c'est intéressant en ce moment? C'est que Bain Capital, qui dirigeait Bain Capital, c'était Mitt Romney, le candidat républicain qui est un massacreur d'emplois. C'est comme ça qu'on l'appelle aux États-Unis, pas dans tous les États-Unis bien évidemment, mais dans une bonne partie, disons une bonne moitié des États-Unis. Donc elles vont là-bas, elles partent ce vendredi. C'est la première fois pour la plupart d'entre elles, et même je crois pour la majorité, qu'elles vont prendre l'avion. Elles vont aller à Chicago, elles vont aller à Boston, elles vont aller à New York, rencontrer donc les ouvriers, les salariés des entreprises, d'entreprises américaines victimes de ce même fonds d'investissement. Et elles vont déposer leur plainte auprès de la justice américaine contre Bain Capital et donc, par voie de conséquence, contre Mitt Romney. C'est une démarche absolument formidable, sauf que vous avez compris, et ben, au point de vue sous, c'est pas évident. Et donc, si vous voulez les soutenir, voilà le mail auquel vous pouvez vous adresser, c'est bernard.daubenfil@orange.fr. Alors, Daubenfil, ça s'écrit daubenfil@orange.fr. bernard.daubenfil@orange.fr. Et le portable de l'association, c'est pas de la grande com, hein, c'est vraiment des gens en lutte d'Hénin-Beaumont. Le portable de l'assoce, c'est 06 30 27 96 46. Notez bien, 06 30 27 96 46 pour que les ouvrières et les ouvriers virés de Samsonite à Hénin-Beaumont puissent aller aux États-Unis soutenir les salariés américains licenciés. Voilà, aujourd'hui on continue l'année sociale, et on va revenir sur la journée d'hier qui a été très très chaude. C'était une journée très très particulière. Entre les manifs, on avait un extrait de reportage hier en début d'heure à la porte de Versailles à l'occasion du salon de l'auto, et puis la manif de l'après-midi avec des quantités de salariés, de licenciés ou de futurs licenciés dans cette vague de licenciements qui n'en finit pas. Et quelle résistance des projets de loi, des esquisses, des demandes de nationalisation de certaines entreprises ou d'un contrôle par l'État, par les pouvoirs publics de certaines entreprises qui licencient abusivement. Donc c'était les thèmes d'hier au cours de cette manif. Et c'est là que nous allons avec Sarah, avec Gaylor, avec Anaël, avec Antoine, c'est-à-dire toute la Dream Team de là-bas, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, j'espère que vous passerez mon message. Je voudrais aider tous les jeunes qui n'ont pas encore trouvé où se loger pour cette année, pour démarrer leurs études. Surtout, faites très attention, mon fils a failli se faire prendre par une arnaque, une escroquerie à la location d'appartements. C'était sur la ville de Nantes, mais le réseau fonctionne aussi sur Nice, Lille, Bordeaux, même en Belgique. Donc c'est une arnaque au chèque urgent postal. Ce sont des mandats cash urgents qu'il faut aller chercher à la poste en déposant de l'argent liquide. Et les arnaqueurs se débrouillent pour, dans un délai très rapide, récupérer cet argent. C'est une grosse arnaque.
Bonjour Daniel et tous les AMG. Ce soir, au repère de Bordeaux-Bacalan, nous parlerons de l'intrusion du numérique dans le milieu de l'éducation. Michel Lorissard, qui est enseignant, cofondatrice d'un site informatique de partage sur le sujet qu'elle connaît bien, nous dira comment l'éducation nationale s'apprête à initier et accompagner cette évolution qui enchante nos enfants et ne rassure pas toujours les enseignants. Et comme à chaque fois après le débat, on pourra continuer à discuter à table ou au bar. C'est ce soir à 19h, au bar de la Marine, 28 bis, rue Achard, station de tram Achard. Ciao, à tout à l'heure.
Dans le monde des SDF, il paraît qu'il y a un mot qui est ravageur et qui a fait son apparition il y a quelques temps. C'est le mot « asphaltisation ». Asphaltisation, comme asphalte, apparemment, sont des gens qui ont décidé de rester sur un coin de trottoir ou un coin de rue et de ne plus jamais en bouger jusqu'à la mort. Donc voilà, un grand projet d'avenir, l'asphaltisation.
Pas un mot hier sur la manif à France Inter. Pourtant, c'est là qu'on voit toute la souffrance de la France qui va mal. Ces ouvriers au visage buriné, de l'aérospatiale, des hôpitaux. Sur le parcours, j'ai vu un jeune manifestant qui lisait un livre, comme on lit un bréviaire. Je lui ai demandé ce qu'il lisait. C'était le dernier livre de Patrick Le Yarrick, Le pacte budgétaire. Il en avait lu la moitié. Voilà une bonne manière de manifester. Au revoir.
Hollande, regardez. Moi, je suis ouvrier, moi. Je travaille en 3-8. Et aujourd'hui, je viens là manifester mon mécontentement parce que demain, j'aurai peut-être plus de travail. Moi, je suis ouvrier, j'ai 28 ans. Demain, je n'ai plus de travail. Je nourris mes enfants avec quoi?
Vous travaillez chez Goodyear?
Oui, je travaille chez Goodyear, oui. En 3-8, ça fait 10 ans. Depuis l'âge de 18 ans. Nous, on en a merde. Parce que là, tout le monde délocalise. Et demain, on va faire quoi? Je suis ouvrier, moi. Je suis ouvrier, je ne suis pas patron.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis avec Sarah, avec Gaylor, avec Antoine, avec Anaël. 9 octobre 2012, une journée particulière.
Alors là, on vient d'arriver, porte de Versailles, devant le salon de l'automobile. Il y a un grand panneau, mondial de l'automobile, 29 septembre, 14 octobre. Il y a pas mal de personnes qui font la queue. Et par ailleurs, sur un côté, il y a des tas de cars de la gendarmerie.
Bonjour madame.
Et puis, on retrouve les licenciels. Marie,
bonjour,
ça
madame.
Va
très bien, en forme. Pour expliquer notre proposition de loi, on recommence.
Et là, vous allez distribuer des tracts.
Voilà.
Dans le salon.
Ouais. On a 5000 tracts.
Alors, qui vient?
Goodyear, Faurecia, PSA, Renault, ZF, Valeo, Bigard. Alors, Pilpa, je ne suis pas sûre parce qu'ils ont des problèmes avec le train. Fralib devrait être pas mal en nombre pour expliquer ce qu'on attend. On attend de M. Hollande, puisqu'il s'est engagé. C'était en 2011 sur le parking de Goodyear où il a dit que l'État pouvait fixer les règles et que quand il y avait un licenciement boursier, il ferait en sorte de l'éviter et de saisir le tribunal. Donc bah, maintenant, il est temps. On a même la proposition de loi qui va avec. Il n'y a plus rien à faire, il y a juste à la mettre en place. Ça se fait rapidement, je pense.
Alors, on va essayer de rentrer dans le salon de l'automobile, c'est ça l'idée?
On va rentrer.
Ah oui.
On va rentrer. On va rentrer. On va proposer notre loi, on va la mettre en place et on va rentrer. On lâche rien, comme on dit.
Faut pas mollir.
Vous venez d'où, toutes les deux?
On vient de Caen.
Donc vous êtes partis très tôt ce matin?
On est partis très tôt, ouais, on est partis très tôt, c'est plus
5h.
5h, oui. On a pris le train à 7h à Caen et nous voilà.
On est partis.
Ouais, ouais, vous aussi, la femme?
Écoute, la patate, à fond. On s'était dit qu'on aurait peut-être dû mettre des casques.
Ouais, j'ai vu ça là, en sortant du métro, ouais. J'ai dit non.
Ça te met dans l'ambiance, voilà, c'est pour pas que tu oublies l'ambiance.
Ouais, c'est pas grave, je suis mal réveillée, je me suis levée tôt, je vais être de mauvaise humeur.
Nickel, c'est ce qu'il
nickel.
Faut.
Pas peur. Oulala.
Pas peur.
Même pas peur. J'avais un train à 6h13, je me suis levée à 4h. Tu m'as.
Saint-Étienne, hein, quand même.
J'ai même pas dormi dans le train en plus.
Moi, je ne suis pas comme d'autres. Vous allez le reconnaître assez facilement, qui vient devant les travailleurs, dans leur usine, et qui leur promet ce qu'il n'est pas capable de tenir après. Donc, ce que je dois dire doit être aussi ce que je tiendrai. Il faut que face à ces situations où il y a des plans sociaux, des licenciements dont la seule justification est le rendement d'un cours boursier, il faut que la jurisprudence qui maintenant s'est établie puisse être en forme de loi pour que vous puissiez, là, non pas empêcher des licenciements, nous ne les empêcherons jamais dans les entreprises qui connaissent hélas, des diminutions de charges ou d'activités, mais là où il y a la recherche de licenciement pour un seul but boursier, il faut qu'il y ait la saisine d'un tribunal qui puisse suspendre ce plan et obliger l'entreprise et le groupe à revenir dans la négociation et dans la discussion avec les salariés. Ce genre de déclaration, faite par celui qui est actuellement président de la République, a évidemment intéressé ceux qui sont au chômage, ceux qui sont menacés par le chômage, ceux qui sont menacés, pris dans ces plans sociaux innombrables. On n'a presque plus à les compter actuellement à travers ce pays. Or, vous connaissez la suite, celui qui a été élu et son gouvernement n'ont pas l'air de tenir leurs promesses. En tout cas, la pression est forte, l'attente est forte et puissante. Elle vient de loin, elle est très profonde pour que de telles lois soient votées et soient appliquées contre les licenciements dans le cas où les entreprises font des bénéfices et notamment des bénéfices boursiers. Il y a aussi des projets et on parle de plus en plus de nationalisation, je le disais, en commençant. Bref, voilà des sujets, des projets qui ont largement animé, été présente dans les manifestations d'hier, que ce soit le matin devant le salon de l'automobile à la porte de Versailles, vous allez voir que ça s'est passé très violemment, très très violemment, et puis ensuite dans les manifestations de l'après-midi. Ça a quelque chose d'inédit parce que on est là dans une pression qui vise un gouvernement de gauche, c'est pas la première fois en France, mais qui se rétrécit au point de vue cible sur cette volonté d'une loi. C'est plus seulement des bagarres d'arrière-garde pour obtenir les meilleures indemnités possibles, ce qui est tout à fait légitime et normal. Mais là, il s'agit véritablement de faire avancer une loi ou quelque chose de l'ordre de la loi, oui, qui permettrait de réduire ou d'éviter ou de supprimer complètement ces licenciements et de faire passer les travailleurs, les salariés avant les actionnaires et les intérêts de la finance qui était aussi l'ennemi numéro un de celui qui est actuellement le président de la République. Donc, retour sur cette journée d'hier, 9 octobre 2012, une journée particulière.
Il y avait une usine et les gars y travaillaient. Mais en écoutant la bourse, les patrons décidaient que l'usine était moche, qu'il fallait tout brader. C'est pas qu'elle marchait pas, c'est que tous les rentiers ils trouvaient que 10%, ça pesait pas assez. Ils ont loué des vigiles et des chiens qui aboyaient. Ils ont pris des ficelles, ils ont tout barricadé. Tout autour de l'usine, on ne pouvait plus passer. Ils voulaient prendre les machines, ah quelle drôle d'idée. Les Molex, ils ont vu ça, ils les ont empêchés. En leur collant une grève, les patrons l'ont pas volé.
La 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 la, et la grève a commencé. La 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 la, et la grève a commencé. La 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 la, et la grève a commencé. La 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 la, et la grève a commencé.
Les patrons ont appelé le cabinet et l'entourage de monsieur le préfet. Lui c'est l'homme qui vient du ciel, il va nous sauver. Lui c'est l'homme providentiel, je m'en vais l'appeler. Le préfet nous a dit, nous allons discuter. Mais les vigiles étaient là et on n'a pas pu rentrer. Le brave homme, c'est étrange, n'est pas venu nous chercher. C'est quand même bizarre, il a dû oublier.
La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a
continuer. N'écoutant que son courage, monsieur le préfet, au ministre de l'outillage a téléphoné. Lui c'est l'homme qui vient du ciel, il va nous sauver. Lui c'est l'homme providentiel, je m'en vais l'appeler. On a bien vu le ministre, il nous a écoutés. Tout en remuant la tête, il avait l'air embêté. Oh mes pauvres amis, je vous comprends, vous savez. Mais je ne peux rien y faire, car c'est la fatalité.
La 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 la, et la grève a continué. La 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 la, et la grève a continué.
N'écoutant que son courage, le ministre a décidé d'aller voir le président et de lui raconter.
Lui c'est l'homme qui vient du ciel, il va nous sauver. Lui c'est l'homme présidentiel, je m'en vais l'appeler.
Le président nous a dit, ah ça ne peut plus durer. Vous allez voir ce qu'on va voir, nous on va moraliser. Devant les télévisions, il nous a déclaré, il faut faire une commission avec monsieur le préfet. Les Molex, ils ont vu ça et ils ont pas lâché.
Les Molex, ils ont vu ça et ils ont pas lâché.
Ce que tu lâches au patron, ils te le rendront jamais.
Ce que tu lâches au patron, ils te le rendront jamais.
Philippe Poutou, vous parliez de convergence des luttes.
Il y a deux choses, effectivement, il y a les moyens qu'on se donne pour se battre, comment on s'organise, hein, la stratégie des luttes et la convergence est incontournable. Si on veut imposer un rapport de force qui permette de changer les choses, c'est se battre tous ensemble. Et la deuxième chose, c'est quelles revendications, effectivement. Et la revendication, ben, c'est l'arrêt des licenciements, des fermetures d'usines, donc ça passe par des projets de loi, par exemple, comme vous le faites. Mais après, c'est même y compris la réquisition, c'est l'expropriation de certains secteurs économiques où on voit que les capitalistes font des profits et puis ils ne font pas fonctionner l'affaire. Il y a toute une bataille politique à mener et on espère bien en avoir la force et cette force-là, eh bien, elle est conditionnée par la convergence. La proposition de Hollande-Montebourg, c'était de dire que quand un patron décide de fermer, il faut qu'il ait obligation de chercher à vendre le site et de chercher un repreneur. Mais sauf que ça, c'est une entourloupe parce que ça ne fait que repousser le problème. Ça, en réalité, c'est pas compliqué pour eux de trouver un repreneur, mais un repreneur bidon qui gère juste la période de transition et puis qui sous-traite la fermeture de l'usine. Ça permet à la multinationale de pas se salir les mains. Et voilà, c'est ce qui s'est passé chez nous. À un moment donné, Ford a vendu un repreneur qui s'avérait complètement bidon. Et heureusement qu'on avait continué la bataille et Ford est au bout du compte revenu racheter son usine qu'il avait vendue 18 mois avant. Donc ça, c'est un danger qui est réel pour tout le monde. Et Arcelor, on est en plein dedans. Là, la solution aujourd'hui, c'est la nationalisation. Mais nationalisation sous contrôle des salariés. C'est ça qu'il faudrait qu'on mette en débat politique.
Alors, votre texte de loi, Marie, n'a rien à voir avec la proposition de Montebourg-Hollande.
Ah non, rien à voir. On n'est pas du tout sur la reprise d'entreprise. Nous, c'est arrêter les licenciements quand les entreprises ou les groupes font des bénéfices. Ça. Parce que on parle aussi de groupes parce que, par exemple, chez Fralib ou chez Goodyear, ils ont fait en sorte que l'entreprise ne soit plus rentable en mettant, enfin, avec des jeux de comptabilité. Et donc, le groupe, il est important aussi là-dedans parce que le groupe gagne encore énormément d'argent, comme chez PSA aussi. C'est vraiment, il faut aller au-delà de ça, hein, parce que c'est facile de faire partir l'argent ailleurs et puis derrière dire c'est plus rentable. Donc voilà, on est.
Unilever, c'est 4 milliards de bénéfices.
Voilà, c'est ça.
Arcelor, c'est je ne sais plus combien c'est, mais en tout cas, le Mittal, c'est une des 10 plus grosses fortunes de la planète. Peugeot, c'était 1 milliard de bénéfices l'année dernière. 250 millions d'euros distribués sous forme de dividendes. Ford, qui supprime des emplois, c'était 20 milliards de dollars de bénéfices l'année dernière. Voilà, c'est de ça qu'on discute. C'est-à-dire des multinationales qui font du pognon, mais même souvent, ils jouent avec l'idée que oui, mais c'est une petite société. Mais souvent, les petites sociétés, elles sont filiales d'une grosse société ou d'un gros groupe. Donc c'est
en fait, Suisse, c'est
ouais, voilà, ouais, tout à fait.
Auto qui est richissime, donc oui, effectivement, on ne peut pas s'arrêter à ça. Quoi.
Saudi Medical, qui est, pareil, les filles ne sont pas payées depuis plus d'un an, ça appartient à un appartement, il y a des bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'on est pour licencier quand il n'y a pas de bénéfices, mais au moins ça serait une loi d'urgence à mettre en place.
Ah ouais, c'est aujourd'hui. C'est un minima aujourd'hui, c'est un minima. On ne demande pas non plus des choses énormes, on demande le minima dans une société comme la nôtre.
On va applaudir leur arrivée.
Alors là, on est au milieu des gouttières de la CGT qui arrivent devant le salon de l'automobile. Vous vous appelez comment ?
Moi, je m'appelle Franck. Je travaille chez Goodyear. CGT, bien sûr, obligatoire.
Et alors, vous êtes arrivé avec des tas de tracts. Là, je vois, il y a un gros carton rempli de tracts.
Oui, tout à fait. Ça, c'est pour la loi, pour M. Hollande. Il nous a promis une loi pour les licenciements boursiers, que les gens qui, enfin, les boîtes qui font du bénéf ne peuvent pas licencier les gens comme ça, à tout va. Nous, ça fait 5 ans qu'on se bat pour qu'il n'y ait pas de licenciement et on tient. On tient parce que bah, nous, la CGT, on est très fort et on a les ouvriers qui nous suivent tout le temps. La preuve, on a fait 5 bus, ils sont remplis. On aurait pu en faire beaucoup plus, mais après, financièrement, on ne peut pas. Alors, on a pris 5 bus et on a 300 personnes avec nous. Et après, on vient aussi pour défendre notre emploi, puisque l'automobile, je veux dire, salon d'automobile, ça fait partie de nous, puisqu'on fait des pneus, hein, on fait des pneus Goodyear. Les pneus sont faits maintenant, on va dire, dans les pays low cost, quoi. Et nous, on veut que ça, les pneus soient refaits en France.
Fabriqués en France.
Tout à fait. Made in France, et non pas made in je sais pas où.
Merci Franck. Bon, bah, on va aller devant le salon de l'automobile, ah ouais, alors c'est ça, il faut affronter les CRS.
On va aller se faire gazer maintenant. Allez, on y va, go.
Allez.
Allez les filles, au boulot.
Ah, là c'est assez impressionnant, hein. Le salon de l'automobile est pris d'assaut, il y a à peu près entre 1000 et 2000 personnes devant avec des drapeaux, des fumigènes, des pétards qui sont amassés devant les grilles blanches du mondial de l'automobile et les CRS qui sont en fait ont reflué juste derrière ces grilles et qui défendent ardemment l'entrée, qui essayent de forcer tous les salariés en lutte réunis ce matin.
D'accord ? Alors soit on est venu pour faire la figuration et reste ici, on écoute les grands discours, ou soit on se bouge et on rentre. Donc nous on est venu il y a 2 ans, on est venu il y a 4 ans, c'est des Sarko, on est rentré. Là c'est Hollande, il n'y a pas moyen, on va rentrer. Il a fait des promesses, il va les tenir. Si Hollande il veut venir nous voir, on est présent. Tous là-bas et on défonce la porte, il faut et on rentre. Allez, tous à la barrière là-bas.
Ah, c'est le cri du peuple là, tout le monde, tous les salariés montent en masse vers les grilles parce qu'il y avait eu des tentatives un peu isolées auparavant. Et là tout le monde, l'ordre est donné à tout le monde de monter vers les grilles. Et voilà. Et force la porte avec un gros bâton. Et les CRS, la charge des CRS qui va. Et voilà, des énormes choses qui sont ramenées. Et derrière on va pousser, là, tout le monde est parti. Avec un énorme panneau en bois pour forcer les portes. Voilà, tout le monde part, parce que là,
attention, ça va vous gazer.
Beaucoup de lacrymo.
Vote de gauche, mais là maintenant ils vont se carrer. Je sais même pas où je vais voter, mais je pleure ma race. Ouais, j'ai voté gauche et puis tu vois comment je regrette. Il me nique la gueule, bâtard. Je reste poli parce que c'est le micro, mais ça va chier.
Bon, il y a une.
Là, c'est que le début. Là, là ça va chier.
C'est que le début.
Ouais. Là, on va forcer.
Vous êtes d'où ?
Goodyear, Amiens.
Goodyear.
Ouais. Nous, pourquoi on est viré, on s'en branle. Ça va chier.
Voilà, tout le monde repart, là, vous repartez au front, là, pour essayer de forcer les grilles.
Démonter les pavés, les trucs, et ne pas lancer.
Qu'est-ce que vous dites ?
Démonter les pavés, les routes, et puis balancer.
Comment ça se sent ?
Pas bien sûr, pourquoi pas, on est là pour ça, de toute façon. Moi, je serais partante.
Vous pleurez, vous aussi, ça enlève votre maquillage.
Ah oui, ça a piqué. Ben, c'est la première fois que j'en ai reçu, là. Là, moi, je sais ce que c'est. Mais ça nous met encore plus en colère et plus en rage. On a envie d'avancer encore plus.
Vous êtes d'où, vous ?
Moi, je suis de Douai. De toute façon, ça va mal partout, alors.
Vous allez retourner au front ?
Ben, s'il y a une vraie guerre, je pars en tête. C'est moi qui fais la Marianne du Nord et du Pas-de-Calais.
Il faut faire bouclier !
Ils ont rebalancé des gaz lacrymo. Et il y a des fumées de l'autre côté des grilles. Il y a les CRS qui font barrage derrière les grilles. Ils sont derrière les grilles. Tous les drapeaux sont en l'air ou bien sur les nez des gens pour les protéger. Je vois une pancarte. Le vote utile, voilà où ça nous mène. On est juste devant les grilles, juste devant les CRS.
Michael Wama, CGT Goodyear.
Vous êtes venu d'Amiens hein, aujourd'hui ?
Oui, on vient d'Amiens, on vient à 300 arrêts chez Goodyear, ça fait 6 ans qu'on se bat, ça fait 6 ans qu'on vient au Mondial de l'Auto, on n'a jamais connu ça quoi. Donc je pense que là, bah, cette fois-ci, au gouvernement, on a vraiment des gens de droite. Moi je pense que Sarkozy était de gauche par rapport à Hollande, parce qu'on est toujours rentré. J'ai jamais vécu ce qu'on a vécu aujourd'hui. On devait juste venir demander à ce qu'Hollande ne mette en place que ce qu'il nous avait promis, une loi qui interdit les licenciements financiers. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Simplement demander à ce qu'on respecte. Quand vous avez un gamin de 4 ans à qui vous faites une promesse, il vous demande de la tenir. Ben nous c'est la même chose, il a fait la promesse chez Goodyear, il l'a fait chez Fralib, il l'a fait Arcelor. Et aujourd'hui on vient demander simplement qu'il respecte la promesse, qu'on lui met en face, c'est des gaz lacrymogènes et des forces de l'ordre. Faut arrêter 5 minutes. Faut pas oublier non plus qu'il y a quelques mois à Paris, on était une vingtaine de salariés. Ouais. On était parti rue de Liénor, 12 salariés pour déposer un amendement d'une loi et on s'est fait accueillir par 70 CRS. Donc les mêmes méthodes, les mêmes personnes. Donc franchement, effectivement, la droite est bien au pouvoir. Et Arnaud Montebourg.
Arnaud Montebourg, il était venu vous voir à Goudière à Amiens.
Ouais. Bah, c'est un menteur. Arnaud Montebourg, il avait dit la même chose qu'Hollande. C'est au monde des primaires. Moi, si je suis président de la République, j'entendrai les salariés comme vous qui luttent et je ferai une loi qui interdit les licenciements financiers comme
chez Goudière. Vous l'a dit ça ?
Oui, nous l'a dit. C'est sur Facebook, c'est sur YouTube. La vidéo, elle est en boucle, vous pouvez la vérifier. Mais de toute façon, le gouvernement va avoir des sérieux problèmes d'ici peu de temps. Parce que la France d'en bas, elle en a ras-le-bol des promesses qui n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, ils nous ont dit que c'était la guerre. Bah, vaille que vaille, ça sera la guerre.
Bien sûr qu'un licenciement aujourd'hui qui n'a pas de cause réelle et sérieuse doit être sanctionné. Ça, c'est la loi.
Arnaud Montebourg, avec les ouvriers de Goodyear.
Les licenciements où il n'y a pas de justification, ils sont sanctionnés.
24 février 2012.
Mais ils sont sanctionnés quand l'usine est déjà en Pologne. Et quand vous avez, vous êtes à Pôle emploi. Et après, bah d'accord, vous recevez un chèque un an plus tard. Nous, notre problème, c'est que nous puissions les suspendre. Pour conserver des outils industriels et éviter que les emplois soient perdus, quand les entreprises gagnent de l'argent, quand elles font faillite. Tout le monde subit la situation. Mais quand elles gagnent de l'argent, surtout quand on appréhende qu'un groupe gagne de l'argent et réalise des profits considérables, il faut pouvoir suspendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois qu'il est inéluctable, indispensable et justifie notre engagement que la suspension des licenciements injustifiés puisse être ordonnée par un tribunal à la demande des représentants des syndicats ou du personnel.
Une journée particulière hier, ce 9 octobre 2012, dont certains se souviendront. C'était pas seulement à Paris, là, on est à Paris, on est à la porte de Versailles, mais c'était aussi à Marseille, à Rennes, à Toulouse, à Épinal, à Belfort, à Bordeaux, Lyon, Le Havre, Clermont-Ferrand, etc. 90 000 au total selon la CGT pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il adopte rapidement une loi empêchant les licenciements abusifs, comme ça a été promis, on vient d'entendre M. Montebourg, une demande approuvée par 3 Français sur 4 selon un sondage Harris Interactive qui vient d'être publié. Alors, l'un des protagonistes militants de cette loi et qui contribue à la mettre en forme, il n'est pas le seul, c'est Fyodor Rylov.
Fyodor Rylov, vous êtes avocat pour nombre de salariés qui sont présents ici. Vous avez défendu les Goodyear, vous avez défendu les licenciels. On en est où de cette loi contre les licenciements ?
Écoutez, manifestement, au lieu d'une loi pour empêcher les licenciements qui n'ont pas de justification valable avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il n'ait lieu, on propose aux salariés 1000 ou 1500 CRS lourdement armés. Bon, alors, il y a deux manières de réagir face à ça. Soit on considère que cet accueil est en quelque sorte la réponse définitive d'un gouvernement qui a décidé de mettre en œuvre le programme que Nicolas Sarkozy n'a pas pu réaliser, soit on considère que cette première réaction est juste le signe d'un recul, en vérité, du gouvernement qui n'arrive pas à trouver autre chose que les forces de l'ordre pour répondre aux salariés en lutte, et que ce premier recul sera suivi d'autres reculs jusqu'à ce qu'on crée ce rapport des forces qui contraindra M. Hollande à remplir ses engagements, à tenir les promesses qu'il a faites pendant la campagne. Et oui, souvent on dit aux salariés « mais qu'est-ce que vous êtes naïf de croire aux promesses qui sont faites pendant la campagne. » Pardon, la parole et la parole politique, c'est pas rien. Vous voyez ? C'est lourd de sens. Et quand on prend un engagement et qu'on est élu en partie sur cet engagement, eh bien, il faut le tenir. Et si on ne tient pas, alors qu'on ne s'étonne pas de voir les salariés en colère se mobiliser toujours plus nombreux pour que cette parole soit mise en œuvre. On a plein d'espoir, et non seulement on a plein d'espoir, mais on a des certitudes. On va créer ce rapport des forces qui contraindra Hollande à proposer à l'Assemblée nationale un débat sur cette loi et à faire adopter par le Parlement une législation qui permettra enfin aux salariés de dire « Bon, monsieur le patron, votre licenciement n'a pas de justification valable, c'est clair, c'est net, et donc nous allons vous empêcher de le mettre en œuvre, ce licenciement, et nous allons le faire non seulement en nous mobilisant, mais aussi en allant voir un juge pour lui demander simplement d'appliquer la loi. » Voilà. Et ça va arriver, vous le verrez.
Quand ça ?
Vu la rapidité avec laquelle cette loi se diffuse, l'exigence de l'avoir adoptée grandit, je suis, téméraire en vous disant que avant l'été prochain, je crois qu'elle sera dans le code du travail.
On a qu'à prendre une bière et puis on va rentrer, c'est tout. Hein.
Vous êtes venu d'où, vous ?
Nous, on vient de Valenciennes. Moi, je représente l'usine Seven Heures. Aujourd'hui, c'est notre salon à nous, quoi. Aujourd'hui, on est ici. On veut représenter carrément notre site, notre usine. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours. Parce que nous, on souffre en usine. Je suis au travail que quand on a commencé, c'était exécrable. Aujourd'hui, on veut travailler. On veut fabriquer des voitures en France. Et aujourd'hui, c'est pas la main-d'œuvre qui coûte cher. Parce qu'aujourd'hui, avec le gouvernement qu'on a, qui dit qu'on fait du social, le social, il est là. Les gens, ils vous gazent. Hein, voilà, c'est ça le social. C'est nous, on vient défendre notre repas. Notre repas, on va dire aujourd'hui, les coutumes de nos enfants, on se bat pour nos enfants. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là qui sont derrière là, donc on va dire, ils ont été mis en place par un gouvernement. Alors dans ces cas-là, bah, qu'on laisse ce qu'on fait, on met un dictateur, et puis voilà, on serait sous le même régime. Parce que là, ils ne défendent pas l'automobile, malheureusement.
Comment vous vous appelez ?
Moi, je m'appelle Bulté Fabrice, je suis délégué CGT à Seven Nord. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis venu pour sauver aussi mes copains dans le nez, parce que mes copains dans le nez, aujourd'hui, ils vont souffrir en silence. Hein. On les a fait venir dans des conditions peut-être plus ou moins pour venir fabriquer des voitures. Aujourd'hui, on a plus d'un d'eux. Ils vont devenir malheureusement les malheureux du PSA. Et moi, je ne veux pas ça, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen de faire quelque chose à Aulnay, comme partout. Et on n'a pas le droit de fermer des usines comme on a envie de les fermer.
Ça s'appelle tout le monde à l'usine, 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 tout le monde à l'usine.
Oui, bonjour monsieur. Oh, ne va pas le brochet. Vous voulez pas de mariage, mon ami? Et là.
On est Mittal, Sanofi, interdisons les licenciements, nationalisation pour sauver les emplois. On est Mittal, Sanofi, interdiction des licenciements.
Voilà, un peu d'austérité. Alors c'est aujourd'hui aussi que le vote pour le traité européen passe à l'Assemblée. Et pendant ce temps-là, nous on n'est pas à l'Assemblée, on est dans la manifestation avec les salariés qui sont en grève et qui manifestent aujourd'hui.
Hier mardi donc, manifestation pour la défense de l'emploi et de l'industrie un peu partout en France, à l'initiative de la CGT, en même temps qu'il y avait effectivement à l'Assemblée nationale le vote pour le traité européen de stabilité. Il y a évidemment un lien de l'un à l'autre. Alors il y a cette demande et cette exigence d'une loi censée contraindre tout entrepreneur, c'est ce qui était promis, qui veut fermer un site rentable pour assécher la concurrence, par exemple, le céder, et un texte contre les licenciements boursiers. Ils étaient très nombreux, venant de d'ArcelorMittal, du Crédit Agricole, de Goodyear, du Nilever, des Trois Suisses, de ZF, Valeo, Bigard, Forestia, PSA, General Motors, etc. Et encore beaucoup d'autres, a manifesté hier dans les rues de Paris et de beaucoup de villes en France.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors je vois que vous avez une pancarte dans la main, qu'est-ce qui est écrit dessus ?
Il est marqué pour un syndicalisme de combat.
D'accord, et vous êtes à la CGT, à Total ?
Voilà, Total Normandie du Havre. On est venu défendre l'emploi, comme tout le monde, parce qu'on est dans une période de crise et on sait bien que on met ça sur le dos de la crise, mais c'est le capitalisme, c'est la faute du capitalisme si on en est là. Donc nous, on est venu défendre nos emplois en fin de compte.
Parce que vous avez des emplois qui sont menacés chez Total ?
Ah bah oui, complètement. Ouais, là, ils sont en train de fermer toutes les raffineries qu'ils peuvent. On a déjà fermé Flandre l'année dernière.
Il y a combien d'emplois menacés au total chez Total?
Au total, chez Total, beaucoup, parce que bon, bah, comme on veut importer de plus en plus de produits finis, avant on raffinait en France, on faisait venir le pétrole en France. Par contre, maintenant, on fait venir de plus en plus de produits finis, donc tous ces produits qui sont raffinés ailleurs, ils arrivent tout près, donc c'est beaucoup moins d'emplois pour nous, donc nous, on est venus défendre notre emploi. Ouais.
C'est un grand jour aussi pour nos hommes et femmes politiques, puisqu'il y a le vote du traité européen à l'Assemblée. Est-ce que vous faites un lien entre le fait que vous soyez dans la rue aujourd'hui et le fait qu'eux soient en train de voter ce traité européen ?
On peut que faire un lien. Après, nous, on est là pour défendre nos emplois, mais il faut dire que le traité européen, forcément, qu'on n'y est pas favorable. Bon courage.
À vous aussi. Au revoir.
Lorsque l'on considère que le produit du travail et des lumières de 30 ou 40 siècles a été de livrer 300 millions d'hommes répandus sur le globe à une trentaine de despotes, la plupart ignorants et imbéciles, dont chacun est gouverné par 3 ou 4 scélérats quelquefois stupides, que penser de l'humanité? Que penser de l'humanité? Que penser de l'humanité? Et qu'attendre d'elle à l'avenir? À l'avenir. À l'avenir. L'avenir.
J'irai bien à l'Assemblée nationale directement pour vérifier ce que pense M. Bruno Le Roux de ce projet de loi. Bruno Le Roux, c'est le chef de file des députés du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Après la rue, la salle n'est pas perdue. Bonsoir. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ce fameux projet de loi concernant les interdictions de licenciement pour les entreprises qui feraient des bénéfices.
C'est une piste qui est une piste forcément qui doit nous amener à réfléchir quand des entreprises qui font des profits procèdent, surtout dans une période de crise, à des restructurations pour améliorer des marges, pour améliorer des bénéfices, dans un moment où tout doit être fait pour préserver l'emploi, il y a quelque chose qui n'est pas normal.
Donc c'est maintenant qu'il faut le faire, alors ce projet de loi, cette loi, la voter?
Ça fait partie des sujets sur lesquels il y a des recherches d'accord qui étaient à la discussion, à la négociation salariale. Et donc moi j'attends maintenant, quand ces projets sortiront de la conférence, soit avec un accord, nous les ratifierons, soit s'il n'y a pas d'accord, nous prendrons nos responsabilités à l'Assemblée.
Et quand est-ce qu'on aura les résultats de cette conférence sociale?
Mais c'est l'agenda qui a été fixé par le gouvernement, c'est-à-dire pour une partie des textes avant la fin de l'année 2012 et pour l'autre partie dans le premier semestre 2013.
Donc on attend que les entreprises licencient comme c'est le cas pendant cette rentrée?
Non, on n'attend pas. On essaye simplement là de faire en sorte d'opérer des contacts. C'est le cas sur Sanofi en ce moment, par exemple, par le gouvernement. Mais la loi, elle devra venir s'il n'y a pas de conclusion par les partenaires sociaux.
Et dans le cas de Florange, de PSA, de tous les autres?
La loi ne règle pas tous les problèmes, elle doit être là pour essayer de favoriser des solutions. Je le redis ici, c'est la première fois depuis longtemps dans notre pays qu'il y a une conférence sociale qui est mise en place par le gouvernement. J'attends qu'elle en tire, qu'il y ait des textes qui soient issus de cette conférence, des compromis sociaux qui puissent être trouvés. Si jamais ce n'est pas le cas, alors nous prendrons nos responsabilités à l'Assemblée.
C'est-à-dire ? Monsieur Le Roux s'en va.
Bon, voilà, il faut attendre. Ça résonne bien dans cette salle des pas perdus. Attendre. Il faut attendre.
Attendre et confiance. Bon, il faudra attendre que la piste amène à réfléchir. C'est vrai que c'est pas normal. On essaye, c'est un sujet de recherche. C'est quand même moins ferme et moins viril comme ton que celui auquel nous avaient habitués nos élus d'aujourd'hui lorsqu'ils se présentaient à nos suffrages tout de même. Enfin, ça va se faire. Pas maintenant, mais ça va sans doute se faire très prochainement. On retourne à la manif et on rencontre M. Besancenot, Olivier.
Réquisition ! Réquisition !
Bonjour Olivier Besancenot.
Bonjour. C'est la rentrée de la lutte, du rapport de force et puis de l'urgence, parce que là il y a des plans de licenciement en cascade et on sait que sans rapport de force, il n'y aura pas de loi d'interdiction des licenciements qui tombera du gouvernement, on les connaît. Mais en tous les cas, sur une séquence aussi rapprochée, c'est la première fois sous un gouvernement de gauche en plus qu'on a autant de boîtes à la fois. Donc leur positionnement politique à base de on demande à tout le monde de négocier. On envoie des signaux aux uns et aux autres pour leur demander de se mettre autour de la table ronde pour négocier entre partenaires sociaux. Ça, c'est des bouteilles à la mer qui sont envoyées, qui deviennent inacceptables. Et aujourd'hui, je crois que le gouvernement, il a du souci à se faire, parce que dans ces boîtes-là, les histoires racontées aux enfants, c'est terminé. Donc on sait qu'il faudra une mobilisation importante et pour imposer une loi dont elle pourrait être votée en quelques jours, simplement, hein, puisqu'en fait, il faudra 4 jours pour voter une loi d'interdiction des licenciements, comme quoi c'est possible.
Et alors cette loi, justement, est-ce que c'est possible de l'écrire clairement ?
Récupère toutes les subventions publiques, tous les allègements, tous les cadeaux qui ont été faits pendant des années à ces groupes qui s'entêtent à licencier ou à fermer des sites. Après, c'est vrai qu'il y a des petites entreprises qui ferment et qui ne font pas nécessairement de bénéfices, qui sont victimes de la crise. Dans ces cas-là, nous, on préconise une nouvelle branche de la sécurité sociale qui interdirait la rupture du contrat de travail pour les salariés concernés, qui leur permettrait de garder la même rémunération, la même qualification, avec un fonds, avec un financement qui soit 100% payé par le patronat, et nous on préconise de le financer en amont par les grandes entreprises plutôt que par les plus petites. Donc cette loi, elle est crédible, elle n'est même pas révolutionnaire, elle est simplement nécessaire à imposer, parce qu'aujourd'hui on sait que le gouvernement, dans bien des cas aujourd'hui, non seulement il s'avoue impuissant, mais parfois pire, il choisit carrément le camp des licencieurs. À Sodi Médical dans l'Aube, il y a 52 salariés qui ont vu le procureur pour le parquet plaider la liquidation judiciaire. Donc quand on plaide la liquidation judiciaire, ça veut dire que l'État choisit le camp des licencieurs, pas le camp des licenciés. Et pour parler très clairement, je crois que le jour où on aura en tête de manifestation des cortèges massifs des salariés de PSA, de Sanofi et d'Arcelor, alors là derrière, on verra toutes les petites entreprises qui ne font pas forcément la une de l'actualité, mais qui se sentiront représentées. Ce serait l'occasion d'aller se rappeler au bon souvenir d'Arnaud Montebourg sous les fenêtres de son ministère du redressement productif qui redresse que dalle pour l'instant. Et ça, ça prend du temps parce que c'est tout sauf naturel, c'est tout sauf spontané que de prendre du temps, de sortir de son propre conflit, sa propre mobilisation. Parce qu'on sait, des luttes de cette nature-là, c'est pas simplement organiser des manifs, c'est pas simplement organiser la grève. C'est gérer le quotidien, c'est gérer des situations humaines qui sont parfois dramatiques. Donc prendre le temps de s'extraire et d'aller voir les autres boîtes, c'est tout sauf naturel. Bah mine de rien, il y en a qui commencent à le faire. Et moi, je vois que ça comme solution, heureusement.
Voilà, pour finir, rencontre avec Michel Husson, qui est un chercheur, un statisticien, économiste, et qui depuis très longtemps travaille et étudie ces questions, les questions du salariat, des licenciements, du travail et de lois possibles pour freiner et empêcher ces licenciements en France et ailleurs.
Alors là, on rentre dans le square Henri Cadieux, pas très loin de la place d'Enfer Rochereau, et on est avec Michel Husson. Voilà, là, on est très bien, là, sur le banc.
Oui.
Alors, Michel Husson, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Bah écoutez, je suis économiste et je suis membre du conseil scientifique d'Attac et de la Fondation Copernic. Je travaille plutôt sur les questions d'emploi, donc ça tombe très bien.
Première question, Michel Husson, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les deux rassemblements qu'il y a eu là aujourd'hui ?
Ce sont des rassemblements qui mettent en avant le fait que je pense que le problème de l'emploi va être dominant en fait dans les années à venir, parce que les perspectives sont très mauvaises et parce qu'on a une ribambelle de licenciements qui sont les plus spectaculaires, mais que derrière il y a une vague de fermetures de petites boîtes, etc. Et je pense que cette manifestation a été une manière de marquer le coup et de dire c'est sur ce terrain aussi qu'on attend le gouvernement.
Parce que pour le moment, que propose le gouvernement en matière d'emploi ?
La seule logique du gouvernement, au fond, et Hollande l'avait déclaré depuis longtemps, c'est l'idée qu'il faut renouer avec la croissance, qu'il va falloir faire de la croissance pour faire des emplois. Mais c'est absolument contradictoire, parce qu'il y a toute une politique qui est menée par ailleurs, qui aura pour effet de baisser la croissance. Quoi. Le FMI aujourd'hui dit que la France devrait croître de 0,4% l'année prochaine, alors que le gouvernement dit 0,8%. Bon, peu importe, mais l'idée c'est que quand on est dans cette fourchette-là, on ne peut pas créer d'emplois. À mon avis, là, il y a une profonde incohérence.
Qu'est-ce que vous suggéreriez au gouvernement en matière d'emploi ?
je vais être un peu à contre-courant, mais en matière d'emploi, si on regarde sur les 20 dernières années, la seule période où on a vraiment créé des emplois durables, c'est-à-dire qui n'ont pas disparu avec une mauvaise conjoncture, c'est pendant les 35 heures. Il y a eu 2 millions d'emplois créés dans le secteur privé. Et au fond, historiquement, si on raisonne un peu à long terme, c'est cette voie-là avec laquelle il faudrait renouer. Et l'autre volet, c'est l'idée, créons des emplois socialement et écologiquement utiles.
Alors en matière d'emploi, il y a un texte de loi, enfin en tout cas une proposition de loi qui est faite par le collectif Les Licenciels. Et ce texte propose que si une entreprise fait des bénéfices, elle ne peut en aucun cas licencier.
C'est quelque chose, à la limite, que Montebourg devrait mettre en place. D'ailleurs, Montebourg dit qu'il faut que quand des entreprises comme Sanofi, qui est devenue la première capitalisation boursière qui vient de passer devant Total, licencie, il y a quelque chose qui est absolument insupportable. Et donc, l'idée d'encadrer totalement ce genre de situation me semble parfaitement légitime, quoi. Soit Montebourg fait seulement de l'animation sociale en essayant de réduire la dureté des plans sociaux, soit on est cohérent et ce type de loi devrait passer. Ça paraît très radical, mais en fait, parce qu'il y a interdiction des licenciements, ça revient à ça. Mais à partir du moment où c'est limité aux entreprises qui font du profit, en réalité, c'est pas si radical que ça, parce que ça ne couvre pas le problème qu'on va avoir de plus en plus, c'est-à-dire des petites boîtes qui ferment.
Merci à toutes et à tous. C'était mardi 9 octobre 2012, une journée particulière. Un reportage d'Anaël Berzeau, Sarah Lefebvre, Gaylor Van Wimersch, assisté par Antoine Chao. Merci à toutes et à tous. Marie et Sylvie des Licenciels, Fyodor Gulov, leur avocat, Michael Vamen, CGT Goodyear, Olivier Besancenot et Philippe Poutou du NPA, Michel Husson qu'on vient d'entendre, membre d'Attaque, Bruno Leroux, chef de file des députés socialistes, et Jean-Pierre Mercier et tous les salariés de PSA. Merci à toutes et à tous. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, ou bien encore nous retrouver sur la page Facebook de l'émission. Je rappelle, pour soutenir les ouvrières de Samsonite pour leur voyage aux États-Unis, le mail c'est bernard.daubenfield@orange.fr. Daubenfield, c'est s'écrivant D-A-U-B-E-N-F-I-L-D. Vous aurez toutes ces précisions sur la page France Inter et sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Renan Mahé. Cette émission a été réalisée par Lucie Acoun, Chloé Sanchez et préparée par Pierre-Yves Bulteau et Solène Cordier. Quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37.
Tu sais, papa, j'ai appelé le 30-25 pour préparer ma retraite avec Préfonds Retraite, le spécialiste de la retraite des agents de la fonction publique.
Déjà ?
Il n'y a pas d'âge pour bien préparer sa retraite. D'ailleurs, tu devrais t'y mettre.
Non, tu as raison. En plus, avec Préfonds Retraite au 30-25, l'appel est gratuit depuis un poste fixe.
Aujourd'hui, grâce aux espaces Info Énergie, on peut obtenir des conseils gratuits et indépendants pour rendre son logement sobre en énergie et profiter des économies réalisées toute l'année. Ou alors, on peut prendre le risque de perdre de l'argent et contribuer au dérèglement climatique. Alors, faisons vite des économies d'énergie, ça chauffe.
Pour trouver l'espace Info Énergie le plus près de chez vous, adem.fr ou 0810 060 050, prix d'un appel local.
Être utile à Paul, cuisinier, c'est lui donner de la visibilité sur ses dépenses d'énergie.
Moi, c'est Paul, et dans mon resto, c'est dur de prévoir. Un soir, j'ai 30 couverts, un soir 50. Heureusement, côté énergie, c'est différent. Avec la nouvelle offre de marché de GDF Suez Énergie France, l'électricité et le gaz naturel sont à prix fixe pendant 3 ans, avec en plus une remise équivalente à 10% sur mes abonnements.
Informations et conditions au 0811 01 3000, appel non surtaxé et sur notre site internet. GDF Suez Énergie France, être utile aux hommes. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter et le Théâtre de la Ville, avec le Festival d'automne à Paris, présentent les 13 et 14 octobre Angela Winkler dans un récital de chansons inédits en France.
Ich liebe dich, kann ich nicht sagen.
Après avoir incarné Jenny dans l'opéra de Katsu, puis Lulu dans la mise en scène de Bob Wilson avec le Berliner Ensemble, la célèbre actrice allemande fera revivre des succès de Barbara et du Berlin des années 20, accompagnée de trois musiciens. Retrouvez Angela Winkler dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Voilà pour tout savoir sur le soutien possible aux ouvrières de Samsonite et des Nimbomont qui vont partir pour les États-Unis. Je vous le rappelle, c'est assez extraordinaire cette histoire de ces ouvrières qui partent. Elles sont une dizaine, une douzaine, je crois, à prendre l'avion pour la plupart, pour la première fois. Je répète le mail auquel vous pouvez vous adresser, bernard.daubenfield@orange.fr, et il y a un téléphone que je vous répète, le 06 30 27 96 46. 06 30 27 46. 96-46, vous l'entendez, il est 16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Elles ont fait leur choix, c'est leur décision. François Hollande a pris acte cet après-midi de l'échec du projet de fusion de EADS et de BAE Systems. J'ai confiance en EADS, a dit le chef de l'État. EADS continuera sa progression et l'État français, dit-il, fera tout pour que cette entreprise ait tous les soutiens nécessaires. L'avionneur européen et donc le fabricant d'armes britanniques ont renoncé aujourd'hui à fusionner. Les gouvernements n'ont pas réussi en fait à s'entendre sur leur participation respective dans une future entité. Dans l'entourage des deux groupes, on pointe la position de l'Allemagne qui aurait bloqué le dossier, ce que confirme à demi-mot le secrétaire d'État allemand à l'économie cet après-midi. Les intérêts industriels de l'Allemagne seront mieux servis, dit-il, par le maintien de l'indépendance de EADS. De son côté, Daimler souhaite aujourd'hui toujours parvenir à un accord avec le gouvernement allemand pour lui céder ses 7,5% dans EADS, et ce, avant la fin de l'année. Damas rejette aujourd'hui la proposition de Ban Ki-moon faite hier à Paris. À l'issue d'une rencontre à l'Élysée avec François Hollande, le secrétaire général de l'ONU avait réclamé un cessez-le-feu unilatéral. Le régime de Bachar el-Assad vient donc de le refuser. Nous demandons à Ban Ki-moon d'envoyer au contraire des émissaires vers les États qui ont de l'influence sur les groupes armés pour mettre un terme à la violence, a fait savoir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères syrien. Sitôt l'annonce du mariage homo confirmée par Matignon, la municipalité d'extrême droite d'Orange fait savoir qu'une pétition en ligne circule. Elle aurait déjà recueilli plus d'un millier de signatures d'élus municipaux qui refusent de célébrer les unions des personnes de même sexe. Jacques Bompard réclame un droit de retrait pour ses élus. Réponse de Patrick Balkany, député maire UMP de Levallois, près de Paris. Un maire est là pour appliquer la loi, mais un élu qui ne voudra pas le faire trouvera toujours un adjoint. Le projet de loi sur le mariage et l'adoption sera donc présenté le 31 octobre prochain Conseil des ministres. La loi sera votée l'an prochain. En revanche, l'autorisation de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes pourrait faire l'objet d'un texte futur, dit Matignon. Deux hommes ont été placés en garde à vue aujourd'hui à Amiens. Ils sont soupçonnés d'avoir participé aux affrontements avec les forces de l'ordre cet été à Amiens Nord. 17 personnes avaient été blessées chez les policiers et les dégâts dans le quartier avaient été considérables. Dans le procès d'idées tournantes devant les assises du Val-de-Marne à Créteil, après les plaidoiries de la défense, les jurés se sont retirés en début d'après-midi pour délibérer. Le verdict est attendu dans la soirée. 14 hommes sont jugés à huis clos pour des viols collectifs il y a 10 ans dans les cités de Fontenay-sous-Bois, près de Paris. Un acquittement de plusieurs accusés n'est pas exclu, l'avocat général n'ayant réclamé cette semaine que des peines pour 8 d'entre eux. Un ancien cadre dirigeant d'un hypermarché dans les Pyrénées-Atlantiques, condamné à 15 000 euros d'amende pour avoir harcelé un chef de rayon entre 2009 et 2010. L'homme âgé de 48 ans l'avait bombardé de coups de téléphone jusqu'à 80 par jour. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Rendez-vous pour des enregistrements en public du jeu des 1000 euros dans le département de la Vienne. Aujourd'hui, mercredi, à Jonéclan, à 18h30 à l'Agora. Et demain jeudi, à Loudun, à l'espace culturel, à 18h30 également. À très bientôt dans la Vienne.
Autrefois, c'était mieux parce que c'était... Il n'y avait pas les... C'était...
Non. C'est... Mais vous continuez longtemps?
Tu penses qu'ils appellent ça de la musique?
En tout cas, les informations, bah, il paraît que c'est pas vrai.
Et vous, vous en pensez quoi ?
France Inter, la voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, une annonce de concert, c'est un changement, donc c'est très important pour que vous n'alliez pas à un endroit qui n'est plus le bon. Samedi 13 octobre, dans le cadre du Festival d'Île-de-France, Diaspora, Musiques en Partance, il y avait un concert prévu à l'Institut du Monde Arabe à Paris, à l'auditorium Rafik Hariri, donc ce sera toujours, le concert est maintenu, rassurez-vous, mais le concert de Zad Moultaka, compositeur qui a un pied à Paris, un pied à Beyrouth, et puis son cœur des deux côtés aussi, avec ensemble les chœurs franco-libanais, l'ensemble Sébaré, et de la musique qui évoque justement ces cultures différentes mais complémentaires, avec violoncelle, guitare, alto, soprano, clarinette, l'orchestre et le chœur franco-libanais. C'est un gage de qualité, comme tous les autres interprètes. Donc, ça n'est plus à l'Institut du Monde Arabe, ce sera au Conservatoire Régional de Paris, le CR, il faut s'accrocher un peu la gorge pour le dire, Conservatoire à rayonnement régional, donc le bon vieux Conservatoire, 14 rue de Madrid, dans le 8e, et ce sera à 21h, le concert de Zad Moultaka, dans le cadre du Festival d'Île-de-France, et vous descendez au métro Europe, c'est le mieux, tous les musiciens savent, parce que là, il y a des luthiers, il y a des marchands de musique, c'est le quartier des musiciens, même si le Conservatoire National, maintenant, est plutôt à la Villette, il est entièrement transporté dans le 19e. Donc voilà, si j'ai le temps, je redirai cette annonce, évidemment, à partager, parce qu'il ne faudrait pas que certains arrivent devant une porte close à l'Institut du Monde Arabe. D'autre part, à Loos, tout près de Lille, il y a les concerts de poche toujours. Alors vendredi, il y a de la place encore pour le quatuor Modigliani. C'est une chance à prendre, ce quatuor très brillant. Peut-être entendu, le prix des places est très bas, 5€, tarif unique. Donc vendredi à 20h, le quatuor Modigliani, Haydn, Schumann, Dornani, à l'espace François Mitterrand, c'est 80 rue du Maréchal Foch à Loos, chez nos amis du Nord. Et toujours notre coffret avec la fausse jardinière, la Finta Giardiniera. Donc, un enregistrement tout à fait superbe. C'est Ronnie Jacobs qui mène l'ensemble, qui a fait des recherches aussi, parce qu'il y a eu une version originale donnée à Munich, autrefois chantée en italien. Mozart avait supervisé et ça a disparu de la scène. Et puis, ça a été repris en allemand à partir de 1779. Et puis, une version posthume a été retrouvée à la fin de ce 18e siècle. Une réorchestration très habile, très large, typique du dernier Mozart. Est-ce que c'est complètement de lui, cette orchestration? On ne sait pas, mais en tout cas, ça sonne très bien. Et René Jacobs a repris cette version avec quand même un œil critique et une oreille surtout critique. Voici une colère féminine bien sentie. C'est Arminda qui chante. Évidemment, elle a été déçue, vous allez le comprendre. « Je voudrais te punir, infâme, je voudrais t'arracher le cœur ».